France Culture.
Votre attention, s'il vous plaît.
Ce sont des croûtes.
Un jour, j'ai fait un escargot et on aurait vraiment dit un escargot. On dirait des serpents.
Ouais. Le problème de nos contemporains, c'est qu'aujourd'hui, les gens n'ont plus le goût.
Le goût du beau.
Est-ce que les arbres étaient beaux avant que Corot les ait peints? Non!
Pardon, darling. Darling. I adore your work. I just adore your work. I adore.
Voilà. Je vous laisse avec l'art. C'est-à-dire l'artificiel qui nous protège du retour au préhistorique.
France Culture, allons-y voir. Patrick Boucheron.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes en 1947. 2 ans après les massacres de Sétif, et le cadi Mohamed Benoura s'inquiète. Il a pris sous sa protection cette jeune orpheline kabyle, nommée Baya, et qui, dit-on, fait des peintures merveilleuses, pleines de fleurs, de femmes et de couleurs. Elle est exposée à Paris, à la galerie Mecht. Y est-elle vraiment à sa place? Dans une lettre, Albert Camus rassure le juge. Baya est entre de très bonnes mains. Dans ce Paris noir et apeuré, c'est une joie du cœur et des yeux. Et il ajoute, admirant sa majesté au milieu du vernissage, c'est une princesse au milieu des barbares. Camus, Breton, tous ces hommes qui prennent soin d'elle et parlent à sa place, comme c'est touchant. Même André Chastel s'y met. Tenez, écoutez, ces images sont faites de 1000 petits contes africains pris dans des arabesques ingénues et des aplats éclatants où l'instinct prend les mêmes voies que la science exacte de Matisse. L'instinct ingénu de la jeune Algérienne contre la science exacte de la gloire française, tout y est. Ne peut-on pas parler autrement de Baya? Mais si, bien entendu. Allons-y voir. En compagnie d'Anissa Bouayed et Kauter Adimi, bientôt rejointe par notre sociétaire du jour, Elvan Zabunian, là, oui, Baya, et entre deux, très bonnement. On parlera de joie, aujourd'hui sans doute, de jeunesse également, de ce rose indien et du bleu de Baya. On parlera même de contes, de fleurs, si on y tient, mais on en parlera depuis le lieu d'où surgit la splendeur, cette nuit noire, la nuit coloniale, la longue nuit de la guerre civile algérienne. Interminable nuit.
Le jardin, c'est comme une oasis colorée où l'on aime se réfugier. Orpheline, Baya, l'enfant kabyle qui savait peindre et dessiner comme d'autres savent lire et écrire, a créé son jardin. Connue d'elle seule, peuplée de figures maternelles, d'oiseaux, d'instruments et de fleurs, empreint du folklore algérien. Marie-Louis, elle est mag, en 1947, découvre ses œuvres à Alger. Elle a alors 16 ans. Il expose à Paris. Son succès est immédiat. Elle rencontre Braque et Picasso. Breton invente pour elle le terme d'argot.
Vous avez entendu, c'était sur France-Marseille en 1998, à l'occasion de l'exposition des cordeliers à Tarascon. Bon, on veut pas être méchant, mais c'est tout ce qu'on veut pas faire, en fait. C'est ce ton-là qu'on ne va pas adopter aujourd'hui. Bonjour, Kauter Adimi.
Bonjour.
La joie ennemie, tel est le titre du livre puissant que vous avez publié l'année dernière chez Stock. Et je me dis que les superbes vers de Kateb Yassine, dont il provient, « Ni mort, ni meurtrier, je dissimule nos pertes à la joie ennemie », pourraient servir d'exergue à toute votre œuvre d'écrivaine. 5 romans l'ont précédé, dont « Nos richesses », prix Renaudot des lycéens en 2017, et « Au vent mauvais », prix du roman des étudiants France Culture Télérama 2022. Et c'est peut-être avant tout de jeunesse que nous allons parler, celle qui refuse, je vous cite, d'accorder sa joie à ses ennemis, et celle qui revient à vous faire, à vous, face aux images, puisque je vous cite toujours « Voici ce que représente Baya, un ébranlement qui précède la joie ».
Oui, j'ai découvert Baya assez jeune et à la sortie des années 90 de manière assez extraordinaire. Et je dis extraordinaire parce que je ne soupçonnais pas qu'une telle artiste avait existé. Et je dois avoir une vingtaine d'années. Et autant j'ai étudié des orientalistes à l'école, on m'a beaucoup fait redessiner des miniatures en cours de dessin très orientalistes, autant Baïa ne faisait pas partie du programme scolaire. Et je découvre Baïa, c'est la fin des années 90, on est au début des années 2000.
Vous tombez amoureuse.
La fin
de
la guerre.
Vous l'écrivez.
Et je découvre Baïa un jour gris, un jour noir, un jour de silence. Et d'un coup, je découvre que toutes les couleurs d'Alger sont enfermées au musée des Beaux-Arts d'Alger.
Et c'est
Baïa.
Et c'est une magnifique page de la joie ennemie que cette découverte avec, je l'ai dit, une jeunesse, une ferveur, un désir ardent de quitter la nuit. Bonjour Anissa Bouayed.
Bonjour.
Vous êtes dans le livre de Kawuter Adimi et avec nous aujourd'hui, et on vous en remercie. Historienne, commissaire d'exposition, chercheuse au CESMA Paris Diderot, vous travaillez sur les artistes algériens et la guerre, l'art et l'Algérie insurgé, les traces de l'épreuve, 1954-1962, est paru à Alger en 2005, et vous avez publié le magnifique catalogue de l'exposition de l'Institut du Monde Arabe et de la Vieille Charité de Marseille, Baïa, femmes en leur jardin. L'exposition, c'était en 2023, et le catalogue vient d'être réédité, hein, c'est ça ?
Oui, le catalogue a été réédité parce que, finalement, le succès de l'exposition de l'Institut du Monde Arabe a précédé aussi l'exposition de la Vieille Charité à Marseille. Et à Marseille, il y a eu un public absolument extraordinaire, venant de tous les milieux sociaux, de toutes les communautés.
Et disons d'emblée que maintenant, on peut voir, en tout cas à Paris, à la Grande Mosquée, jusqu'en février, je crois.
C'est ça, elle a été prolongée, l'exposition. Oui. Il y a effectivement une exposition d'œuvres de Baïa, et on a encore quelques semaines pour la voir.
Une exposition sur les natures mortes. Mais commençons peut-être par... puisque c'est d'une certaine manière la tradition dans cette émission, par décrire cette grande frise que vous décrivez si bien dans votre catalogue. Je vous la donne, qu'est-ce qu'on y voit ?
Alors cette grande frise, elle n'a pas été exposée en 1947 parce qu'elle a été faite par la suite, mais elle reprend dans un format qui montre que Baïa étant toujours très jeune, puisqu'elle a été faite entre 1948 et 1949, a une maîtrise exceptionnelle de l'espace qu'elle crée. Mmh. Puisqu'elle a commencé peu d'années avant par des dessins, dits dessins d'enfants, sur des petites pages de format de cahier d'écolier, si l'on veut. Et elle est passée très vite à des formats dans lesquels elle se sent plus à l'aise. Elle dit assez vite d'ailleurs qu'elle aime le geste ample. Donc cette frise a cette dimension déjà extraordinaire et met en scène une sorte de procession, comme on peut imaginer qu'elles existaient dans le monde rural, la Kabylie, dont Baïa est originaire, en sachant que Baïa s'est toujours revendiquée, a toujours dit « je suis arabe et kabyle à la fois ». Elle n'a jamais simplement opté pour une seule de ces cultures.
Et ces femmes se détachent sur un fond qui est un fond libre, un fond qui détaché de tout décor.
Baïa a choisi le papier sans doute aussi parce que tout cet espace en réserve qui reste, on va dire, présent, sous son dessin devient vivant avec elle, puisque ces blancs offrent aussi, en même temps, le visage, par exemple, de ces quatre femmes qui se succèdent, et permet aussi de distinguer tout ce qui est le végétal, j'allais dire le décor, mais chez Baïa, c'est jamais un décor. C'est un élément à part entière du tableau. Donc tout ce qui est végétal, toutes ces poteries que les femmes portent soit sur la tête, soit dans lesquelles elles ont planté des arbres. Et on voit qu'il y a une véritable ode à la fois à la nature et aux femmes du monde rural algérien.
Évidemment, c'est très intéressant parce que ça, Kawuter Adimi, c'est une peintre qui a commencé à dessiner enfant. Elle est à 10 ans orpheline, mais c'est pas pour autant une peintre enfant. Et tout ce qu'on dit au fond d'elle, l'art naïf, le matisse ingénu, tout ça, il faut au fond le décaper. Il faut arriver à s'en détacher. Alors c'est très beau ce que dit André Breton sur Baïa. Oui, mais aujourd'hui, en fait, on n'en a plus besoin.
Alors en fait, c'est qu'elle a... Il y a trois choses qui vont jouer dans la réception de Baïa. C'est une femme, ça on faut le souligner. Hein. L'époque n'est pas si favorable aux femmes. Dans l'après-guerre, l'époque n'est pas si favorable aujourd'hui non plus aux femmes. Enfin, ça l'était encore plus à l'époque. Elle est d'Algérie. Et on met derrière Algérie énormément de choses et beaucoup d'orientalisation, d'orientalisme et donc beaucoup d'exotisme autour de ça. Et elle est jeune. Et donc il y a trois caractéristiques qui vont venir accompagner la réception de Baïa lorsqu'elle va exposer. Puis elle expose de manière assez extraordinaire tout de même. C'est-à-dire que ça devient le grand événement parisien post-Seconde Guerre mondiale dans une grande galerie et on va inviter énormément de mondains. On va inviter énormément de monde. La lettre de Camus, au-delà du fait que ce soit Albert Camus qui l'écrive, et donc que moi ça me touche particulièrement, ce qui est intéressant c'est que lui le constate, il fait simplement un tour, et quand il dit la princesse au milieu des barbares, c'est qu'il voit bien le côté mondain de la chose, en tout cas ça, c'est comme ça que moi je le perçois. Et lorsqu'on se plonge dans les archives, il y a un fonds d'archives à Aix-en-Provence assez extraordinaire autour de Baïa, et qu'on voit les archives presse, elle est surnommée la sorcière, la petite mendiante, des mots assez fous aujourd'hui.
Oui, bien sûr. Et tout y passe, vraiment tous les préjugés.
Les plus grandes légendes. Voilà, son âge ne cesse de changer, elle a 15 ans, 16 ans, 17 ans, 14 ans, elle est recueillie par le couple McEwan, elle est adoptée, elle n'est pas adoptée. Enfin, on va raconter plein de choses et leur contraire tout au long de ces années où elle démarre dans l'œuvre de peintre.
Et ce qui est intéressant pour une historienne comme vous, Anissa Boyette, c'est qu'elle est exposée. Et elle est exposée aussi comme une possibilité qu'aurait offert la France en Algérie d'alphabétiser. Alors que pas du tout. En fait, il n'y avait que 5% des filles qui étaient alphabétisées. Et que, au fond, c'est la situation coloniale des années 30 qu'il faudrait commencer par décrire pour saisir la façon dont Baïa sort de cette nuit.
Je pense que ce qui est intéressant, on peut s'appuyer sur des chiffres tels que ceux que vous avez donnés. Effectivement, il ne devait pas y avoir plus de 5% de filles, et dans le monde rural encore moins, qui étaient scolarisées. Mais on peut aussi s'appuyer sur des textes, puisqu'on citait Camus, les fameux reportages d'Albert Camus pour Alger Républicain, à la fin des années 1930, des reportages en Kabylie, où il est... extrêmement choqué et révolté par la situation sociale, le dénuement, les difficultés pour s'alimenter de cette population. Et là, il pose vraiment la question du bilan de la civilisation, soi-disant apportée par la colonisation. Donc, je crois que c'est intéressant et moi, en tant qu'historienne, je pense que ça a été mon premier travail. Mmh. C'était un travail de contextualisation, de manière extrêmement modeste. Et je pense que ces années 30, c'est vraiment l'inverse de ce que pouvait montrer le centenaire de l'Algérie en 1930 ou l'exposition coloniale à Paris en 1931. Et donc, le cas de Baïa est finalement un cas qui nous permet de parler de cette situation coloniale. Et c'était intéressant, à partir de là, de cette ouverture assez large sur le contexte historique, de voir ce qu'il y avait de spécifique à la fois dans la période et dans la trajectoire personnelle. C'est jamais facile en histoire de passer de la grande histoire, on va dire, et des grandes dates, à la trajectoire personnelle, mais c'est ce que je me suis efforcé de faire.
Dans ses carnets, Albert Camus écrit « Le matin, l'Algérie m'obsède », cette phrase « m'appartient », c'est comme ça que commence Kaouter Hadimi, votre magnifique livre « La joie ennemie ». Oui, il faut se réapproprier toute cette histoire, et c'est ce que vous faites.
Alors oui, l'Algérie m'obsède, je crois que c'est ce que je voulais dire par cette phrase camusienne. Et ce qui est intéressant dans le cas de Baïa, c'est qu'effectivement, on aimerait y voir un exemple de l'arabité heureuse. C'est un peu ce que côté français, on souhaite porter. On est 2 ans après les massacres de 45, massacres que la France coloniale a tenté par tous les moyens d'empêcher d'être documentée. J'avais énormément travaillé sur ce sujet pour Nos Richesses. Mais en fait, ce qui était intéressant, ce que j'avais aussi vu, c'est que quand on regarde la plupart des parcours des peintres algériens de l'avant-indépendance, en fait, pour réussir à être peintre, c'est un peu toujours par accident, par la rencontre. Il y a une rencontre qui se fait et ça me permet d'exister en tant que peintre, moi, algérien. Je n'ai pas d'autre exemple de femme algérienne musulmane artiste, à ce niveau-là, en tout cas, qui existe. Elles ont peut-être existé dans des façons beaucoup plus modestes, mais en fait, Baya n'est pas du tout un exemple de l'Arabie terreuse. Elle n'existe pas, d'ailleurs, cette Arabie terreuse, c'est un fantasme colonial. Baya est, en fait, un accident au sens heureux du terme. Elle est une exception de l'ordre colonial. Elle n'est pas du tout un exemple de ce que la France a apporté.
Donc il faut, au fond, accueillir cette joie, mais la déplacer peut-être et ne pas en être dupe. J'avais envie de vous faire entendre une archive qui a été dénichée, dégotée par notre chère réalisatrice Laurence Millet. On y entend Bachir et Salima Mayedine, les enfants de Baya. C'était dans Toute une vie, France Culture 2023.
Bachir, vous êtes le fils, elle a eu combien d'enfants, Baya?
Baya, elle a eu 6 enfants, dont 5 garçons et une fille. Donc elle a consacré, disons, la moitié de son temps à ses enfants, puis l'autre moitié, c'était à son art.
Elle ressemblait à quoi, la maison familiale? C'était où?
C'était à Blida, c'était une grande maison avec un grand jardin, où il y avait plein de plantes et des fleurs, il y avait des hortensias, il y avait des roses, plein de roses, différentes couleurs, il y avait des citronniers, il y avait des orangers. Donc elle passait beaucoup de temps dans le jardin,
Un jardin qui était luxuriant, dont elle s'occupait à merveille, parce que c'était aussi sa deuxième passion, un petit peu, le jardinage.
Salima, artiste calligraphe et belle-fille de Baya.
Elle aimait ses fleurs en tous les cas. Ses hortensias, c'était un secteur à ne pas toucher. Et donc du coup, elle était restée dans cette végétation. Mais ce qui est arrivé en plus, c'est tous les instruments de musique que mon beau-père avait, puisqu'il avait un grand orchestre à Blida. Et donc il y avait piano, oud, mandole, mandoline, voilà, tar aussi. Il y avait vraiment beaucoup, beaucoup d'instruments de musique qu'on retrouve dans ses peintures. Et à côté de ça aussi, parfois, quelques ustensiles de cuisine, puisqu'elle elle cuisinait beaucoup même. Mmh. On n'avait jamais faim à la maison parce que, je ne sais pas, elle avait toujours tendance à vouloir nous faire manger.
Elle avait son atelier dans la maison. C'était une grande table où elle peignait, à côté d'une grande fenêtre, donc elle avait son espace. Il était mitoyen à la cuisine. Donc de là, elle passait de la cuisine à la peinture, de la peinture à la cuisine.
Kauter a dit mis dans La joie ennemie, qui fait partie de cette série chez Stock, Ma nuit au musée. Vous passez non pas une, mais 2 nuits au musée, la première fois en 2018, la deuxième fois en 2022, entouré de ces femmes qui vous regardent. Et qui ont été peintes par Baya.
Oui, en fait, quand Alina Gurdia, la directrice de la collection, m'écrit en 2017 et me parle de son projet, je lui dis « je veux écrire un livre sur Baya depuis très longtemps ». Donc déjà en 2017, c'était le projet, donc ça va faire presque 10 ans. Et c'était déjà le projet depuis presque 10 ans. Donc ça fait vraiment très longtemps que Baya m'accompagne et que je griffonne autour de Baya. Il fallait trouver un format ou quelque chose qui puisse l'accueillir. Et je passe une première nuit au musée en 2018. À l'époque, au musée Picasso, il n'y avait pas d'exposition autour de Baya. Et donc, je vais dormir dans ce musée. C'est une nuit qui est assez effroyable pour moi, qui se passe très mal. C'est une nuit qui me renvoie aux années 90. Et au sorti de cette nuit, je ne me sens pas prête à aller ouvrir ces cartons-là. Je découvre Baya à la fin des années 90. Et donc, pour raconter l'émerveillement que furent les toiles de Baya, il me fallait raconter l'avant Baya. Il fallait me raconter la grande nuit que furent ces années 90. Il fallait
Parce que vous revenez en Algérie en 1994.
Avec mes parents et mes frères. Oui, je reviens à 8 ans. Mon père nous ramène en Algérie au moment où, effectivement, Mustapha Benfaudet, qui est un écrivain algérien que j'aime beaucoup, a eu cette terrible phrase au sujet des intellectuels et artistes algériens. Il dit, dans les années 90, c'est Paris ou la mort. Et on revient à ce moment-là, en 94, et moi je vis en Algérie jusqu'à l'âge adulte, mais je traverse ce que furent ces terribles années où le seul mot qui me vient des années 90, c'est effroyable, qui dit toute la peur, qui dit aussi l'absence l'absence de tout espoir. Quand je rencontre Baïa, quand je rencontre de manière métaphorique, quand je rencontre en tout cas ses œuvres, d'abord je suis avec des amis de mon âge, on a 20 ans, et on sort de ce que fut cette puanteur des années 90. On est dans un musée qui rouvre en fait, qui était complètement vide, où on n'allait plus dans les musées, qui rouvre, et je me retrouve dans ce musée des Beaux-Arts, donc, face au jardin d'essai, là encore fermé, et je suis avec des gardiens tellement heureux de nous voir revenir dans les musées, qui nous disent « Attendez, bon, normalement vous n'avez pas le droit d'entrer là, c'est une salle réservée aux chercheurs, mais je pense qu'on a une bonne tête, on a l'air tellement sympa, et on est tellement heureux d'être là, tellement heureux de découvrir aussi notre patrimoine, parce qu'on découvre des œuvres algériennes, etc., au milieu des Picasso, etc. » Et ils nous ouvrent cette porte, et là, je trouve Baïa.
Je tombe amoureuse à cause des yeux cernés de noir, des couleurs contenues et retenues, à cause de la musique que j'entends derrière chacun des tableaux, des fleurs qui les envahissent, des mains sur la toile, des parfums que je sens dans cette grande pièce où personne n'est entré depuis si longtemps. J'imagine Baïa se composer un visage à Paris en 1947, consciente de tout ce qui pèse sur ses épaules. Nous revoici à Paris en 1947, Anissa Bouayed. Oui, elle doit se composer. Elle doit se composer un personnage parce qu'elle a été découverte par un certain nombre de protecteurs. Le premier, c'est une protectrice, c'est Marguerite.
Oui, elle a été finalement accompagnée, mais... Ce qui me semble important de dire aussi, c'est que Baïa, même quand elle était enfant, adolescente, et qu'elle a connu ce succès fulgurant, elle a été en même temps acteur ou actrice de son succès. Et je pense que c'est important de voir les deux. Et donc, effectivement, elle n'aurait pas pu être connue s'il n'y avait pas eu... Ces personnages clés qui sont Marguerite Camina, Frank McEwen au départ.
Donc Marguerite Camina, c'est une peintre elle-même.
Alors elle est documentaliste, bibliothécaire et elle peint aussi. Elle a une très très bonne connaissance de.
Pas comme Baïa, d'accord.
De manière très confidentielle.
Voilà. Ouais. Voilà. Pour, on va dire, son propre plaisir. Et par contre, son mari, Frank McEwen, est quelqu'un qui a été un peintre. Qui a fait les Beaux-Arts à Paris. Il est anglais, mais il a fait les Beaux-Arts à Paris. Et donc, ils ont à cœur, au départ, peut-être, de laisser s'exprimer de manière spontanée Baïa, dans la mesure où, ayant connu des situations traumatisantes avant, elle avait peut-être trouvé son moyen d'expression, à la fois par la sculpture, le travail de la terre.
Ah oui, ça c'est très important.
C'est très important, à mon avis, parce que ça sert de connexion entre son histoire culturelle et ce qu'elle va faire de manière contemporaine et moderne. Et je pense qu'il faut vraiment tenir compte de ça. Et ils lui font confiance et la laissent créer à sa manière, sculpter, modeler la terre, donc dessiner, peindre. Et ils vont même lui dire que elle n'a pas à copier ce qu'elle voit autour, puisque c'est un milieu.
Fais ce que tu veux.
Voilà. Et ça, je pense que c'est important qu'elle ne soit pas passée par une période de mimétisme avec les artistes européens.
Je dirais simplement que dans Les Bonnes Fées, il y a aussi le sculpteur Périssac, puisque c'est lui qui va jouer les entremetteurs avec Aimé Macht, et qui va donc montrer les premières toiles confiées par Marguerite, et qui va montrer ses premières toiles au galeriste Macht. Et que Macht est, alors je ne sais pas si c'est une bonne fée, mais en tout cas, c'est lui qui va faire traverser la Méditerranée aux œuvres de Baïa et à Baïa, et qui va la voir pendant quelques années. Ce qui est intéressant dans l'histoire de Baïa, c'est qu'il y a à la fois le conte de fées et puis il y a tous les éléments d'un conte de fées. Oui. Orpheline, effectivement, de père puis de mère. Elle vit avec sa grand-mère et qui ça ne se passe pas bien du tout. Elle est recueillie par un couple qui est un couple assez étonnant d'ailleurs, assez étrange et étonnant en même temps. Le couple se sépare, elle reste avec Marguerite. Elle est la bonne de Marguerite. Marguerite la prend comme domestique au tout début, puis elle reste domestique quelques années. Et puis un lien se crée entre les deux femmes, un lien qui est très raconté par Baïa dans les lettres que Baïa envoie à Marguerite, qui sont de magnifiques œuvres d'art, hein, même ces lettres-là. Mais ce qui est intéressant dans la réception de Baïa, c'est que au retour de Paris, après ce grand succès, et même dans les années qui suivent, Baïa n'est jamais exposé à Alger. Il faut attendre l'indépendance de l'Algérie pour qu'elle soit exposée.
Parce que si vous la voyez à Alger...
Parce que Jean
90,
de Maison Seule...
Voilà, Jean de Maison Seule, c'est effectivement celui qui... Ouais. Après 1962, après l'indépendance, eh bien, réorganise en somme le musée national à Alger.
Exactement, Jean de Maison Seule, qui est le mari de Mireille, nièce de Marguerite, vous voyez comment on refait la boucle, et qui est quelqu'un qui va rester en Algérie après l'indépendance, quelqu'un qui a beaucoup œuvré en Algérie pour aussi les Algériens, et qui va être le premier conservateur du musée des Beaux-Arts d'Alger, musée ouvert ou créé, je ne sais plus très bien, au moment du centenaire de l'Algérie française, musée vidé de ses toiles avant l'indépendance de l'Algérie, toiles rapatriées en cachette parce qu'on ne veut rien laisser aux Algériens, musée détruit en partie par la France avant de quitter l'Algérie, parce que là encore on ne veut rien laisser aux Algériens, reconstruit, remis en place par Jean de Maison Seule, qui va faire un grand travail à la fois pour récupérer les œuvres d'art en France et pour surtout accueillir des artistes algériens qui n'auront pas été exposés en Algérie du tout. Quoi.
D'où l'importance, Agnessa Bouayed, de restituer dans la culture algérienne, y compris d'ailleurs cette culture matérielle, vous parliez de la poterie, c'est très important, les tapis aussi, toute cette culture kabyle, Baïa, l'œuvre de Baïa. Et c'est intéressant aussi parce que ce qu'on entendait de ces enfants qui évoquent ces instruments de musique qui seront de plus en plus présents dans l'œuvre, dans l'œuvre de Baïa, nous indique aussi la nécessité de ne pas en figer l'iconographie. Elle évolue beaucoup.
Je pense que c'est très important de voir Baïa et ces gens de Maison Seule, donc Aouter Adimi vient de parler, qui est le premier à faire un article de fond dans Révolution africaine, ce journal absolument incroyable.
Histoire incroyable.
D'après l'indépendance. Et je crois que c'est le premier numéro dans lequel il fait une double page sur Baïa et il dit « on n'a pas affaire à quelque chose d'ethnographique, on a affaire à une artiste à part entière qui puise dans un répertoire culturel qui est celui de l'Algérie, mais on a affaire à une artiste à part entière. » Et donc pour Baïa, avec Baïa, rien n'est figé. Mmh. Elle se sert à la fois des motifs, des signes que l'on peut voir sur les poteries, elle se sert de ce qu'elle sait de son amour, par exemple, de la végétation, ou des oiseaux, ou des papillons, mais elle en fait quelque chose qui vient du folklore, au bon sens du terme, algérien, que ce soit les contes, les tapis, ou les poteries, et elle en fait autre chose, c'est-à-dire elle s'approprie ces signes pour faire une œuvre.
Allah, Allah.
sommes sur France Culture et j'ai la joie de parler de Baïa avec Kawter Adimi et Anissa Bouayed. On se disait effectivement tout à l'heure, Anissa, que la nécessité depuis cette première collection de 1947 de la voir évoluer, cette manière de peindre de Baïa.
Oui, ben l'œuvre que l'on vient de regarder ensemble me semble importante de ce point de vue parce que non seulement se rajoute à la thématique qui est vraiment au cœur de la pratique de Baïa, cette femme en majesté, la flore, la faune que l'on peut voir toujours associée. Il y a par exemple les instruments de musique ici. Mmh. Et c'est vraiment essentiel pour comprendre aussi l'évolution du travail de Baïa quand elle recommence à peindre à l'indépendance. Et il y a aussi des modifications, on va dire, formelles en même temps, puisque, Kawter en parlait tout à l'heure, dans les premières œuvres, il n'y a pas de cerne noir qui identifie certaines formes par rapport à d'autres, alors que très vite, après sa reprise, c'est quelque chose qui va devenir essentiel et qui est très important pour la lisibilité de l'œuvre, en particulier dans les périodes où les œuvres sont très foisonnantes, comme dans celle des années 1970, très pleines, où il y a beaucoup moins de parties en réserve. Donc ça, je trouve que c'est très important de pouvoir le noter. Ça permet aussi de voir que Baïa est une artiste à part entière, qu'elle l'a restée toute sa vie, même dans les périodes où elle n'a pas créé, parce que quand elle reprend en 1963, elle reprend avec une facilité qui serait déconcertante pour certains. Et si elle peut reprendre à ce moment-là, c'est bien sûr dans le bonheur de cette indépendance enfin acquise, mais c'est aussi grâce à des médiateurs comme Jean de Maisonseul qui vont lui donner confiance, l'exposer au musée, et Baïa se retrouve entrée vivante finalement au musée des Beaux-Arts.
Chez elle.
Alors que finalement, les autorités algériennes coloniales ne lui avaient jamais donné cette chance avant.
Et quand vous passez vos nuits au musée, Kawter Adimi, ben, vous venez, c'est plus fort que vous, avec de la documentation. Hein,
parce que, toutes mes archives.
Avec les archives, avec justement celles que vous aviez commencé à avoir dans les années 90, parce que ce qui vous intéresse, et il faut dire que ceux qui vont lire La joie ennemie vont aussi apprendre, vont découvrir Baïa, ben voilà, c'est de raconter sa vie aussi, tout simplement.
Moi, je viens pour raconter Baïa. À aucun moment, je viens raconter une autre histoire. Et en fait,
finalement, il y a une autre histoire qui vous fracasse.
Une autre histoire arrive.
Voilà.
C'est vrai. Mais j'arrive pour Baïa. Et j'arrive avec un grand enthousiasme. Parce que j'ai un rendez-vous raté avec Baïa au moment d'écrire Nos richesses. Edmond Charlot, grand éditeur du XXe siècle, premier éditeur de Camus, mais pas que. Il a fait énormément de choses. En fait, ce sont les mêmes époques. Mm-hmm. Et ce sont des cercles très, très proches. Hein. Charlot, après 62, reviendra en Algérie, sera galeriste, exposera Baïa. Il y avait beaucoup d'interférences et j'avais eu énormément d'hésitations entre les deux personnages. Beaucoup hésité à raconter Baïa avant Charlot, puis finalement Charlot l'avait emporté par la littérature et parce que je n'étais pas prête à raconter les années 90 à ce moment-là. Mais donc j'arrive avec énormément d'enthousiasme et d'énergie, je veux raconter ce que Baïa est pour moi, parce que c'est des textes très, très personnels que ceux de la nuit au musée.
Et vous vous intéressez aussi à ce qu'elle a écrit.
Et à ce qu'elle a écrit et aux lettres qu'elle a écrites à Marguerite. Je m'intéresse beaucoup aussi à la réception de Baïa. C'est quelque chose qui moi, à titre personnel, a pu parfois me heurter aussi. C'est depuis 20 ans que j'écris et publie en France. Et je me retrouve dans le deuxième sous-sol de l'Institut du Monde Arabe avec beaucoup de toiles de Baïa qui sont donc des femmes avec de belles robes, des robes extraordinaires, des robes très luxuriantes, beaucoup de couleurs, des œuvres cernées de noir en partie pour les œuvres plus modernes que celles du début, avec ces toiles luxuriantes, des papillons effectivement dans le dessin qui est sous vos yeux, Anissa, on voit aussi la belle part accordée à l'instrument de musique. Oui. Et en fait, je me retrouve aussi avec mes propres archives à porter. Et que faire de ça?
Et sur ce rapport entre Baïa et l'écrit, écoutez ce que On disait Nicolas Misery, qui est directeur des musées de Marseille, à une conférence à la Vieille Charité, où vous étiez également, en 2023.
Peut-être pour reprendre le fil de cet événement 1947, on a évoqué donc la dimension picturale, évidemment, la dimension sculptrice, aussi du travail de Baïa. Mais il y a une autre dimension qui a émergé, en fait, dans la préparation de ce projet. C'est finalement ce que j'ai tendance à considérer comme étant une dimension littéraire, ce que l'on sait peu, en fait, à propos de Baïa, mais elle racontait énormément d'histoires, des contes, de façon, je veux dire, en fait, assez récurrente dans sa sphère privée, mais aussi dans la sphère publique. Et cela de façon, j'allais dire, assez continue, en fait, puisque à la fin de l'exposition, on montre des images où Baïa, en fait, est interviewée et où elle passe d'un récit de sa propre vie, d'une évocation d'un souvenir, à un conte, une histoire, qui sont en règle générale des histoires empruntées au corpus donc de l'oralité et des contes en Algérie, mais plus généralement d'ailleurs en Afrique, et d'autres histoires qui s'en inspirent et qui sont en fait des variations sur certaines thématiques particulières. Alors il s'avère que on peut considérer en fait qu'elle a commencé cette tendance à la narration très tôt dans sa vie, puisqu'en fait en 1947, Aimé Malde dessine le projet de publier un recueil d'un certain nombre de ses contes que Baïa racontait. Il y en a un qui est publié dans le catalogue de l'exposition à la galerie en 1947. Et il y a eu un autre projet qui consistait en fait à en rassembler un certain nombre et les associer à des illustrations qui ont été confiées à Baïa. Alors pour différentes raisons que l'on a aujourd'hui du mal à évaluer, ce projet n'a pas abouti. Ce qui est intéressant, c'est d'observer la nature même de ces contes, puisqu'en fait, ils ont été retranscrits par la mère adoptive de Baïa. Donc, on a en fait les brides, quelques traces. Et ces retranscriptions sont tout à fait saisissantes parce qu'en fait, elles ne sont pas tant narratives que visionnaires. C'est-à-dire que Baïa travaille plutôt par image de langage, par image mentale, que vraiment par le biais d'une narration très, très claire. Et je pense que c'est cette dimension, en fait, finalement très poétique qui a séduit Magde et André Breton, puisqu'il y a une parenté, quand même, là encore, avec les recherches des surréalistes et qui ont pu amener, effectivement, à la constitution de ce corpus.
Elle est magnifique, hein, cette couverture.
Oui, la couverture, c'est, alors, la revue Derrière le miroir, qui est donc qui est la revue créée pour l'exposition de Baïa en 1947. Et donc, on peut lire Le Grand Oiseau et les textes de Breton, etc., dedans. Mais moi, au-delà des contes, effectivement, qui sont assez intéressants à lire pour toute personne qui s'intéresse à Baïa, je trouve que sa correspondance, elle est passionnante à lire, parce qu'en fait, d'abord, on se rend compte que Baïa est assez drôle.
Oui.
Alors, on la décrit dans la presse comme quelqu'un qui ne parle pas, qui est silencieuse, qui ne prend pas de place, etc. Mais quand on lit, quand on rentre dans la correspondance qu'elle entretient avec Marguerite, c'est quelqu'un de très drôle, c'est quelqu'un qui dresse des portraits en couleur des personnes qu'elle rencontre, c'est quelqu'un qui a le sens des situations, c'est quelqu'un qui a tout à fait conscience de ce qui se passe autour d'elle et de la façon dont elle peut être parfois un petit peu manipulée par les médias, etc. Et d'ailleurs, elle ne cesse de dire à Marguerite, ne t'inquiète pas, en fait, au fond, tout ça, c'est que du papier journal. Elle a tout à fait conscience de tout ça, elle a beaucoup d'humour et puis elle écrit extrêmement bien, elle écrit bien, elle décore ses lettres, c'est vraiment des petits bijoux, ses lettres, elles sont magnifiques, certaines étaient un petit peu exposé à l'Institut du Monde Arabe cette nuit-là, mais moi ce qui m'a marqué, c'est de voir toute la vitalité de sa personnalité, toute la joie dans ses lettres, tout ce qui finalement n'a pas été raconté autour d'elle dans la façon dont on a pu décrire Baïa ensuite.
Alors la vitalité, la joie, l'énergie, la couleur, tout cela évidemment éclate aux yeux quand on voit ces peintures, ces œuvres qui sont nommées des contes qu'elles illustrent. Notamment, tenez, je vous donne celle-là, conte numéro 7. Vous les décrivez très bien dans le catalogue, Anissa Bouayed. Ce sont souvent les mêmes, enfin, des personnages qui reviennent. Ce sont quand même des femmes.
Beaucoup de femmes. Très peu d'hommes.
Voilà, avec une magnifique robe, avec des fleurs. Et qu'est-ce qu'on voit là, par exemple?
Les contes, à mon avis, sont aussi intéressants parce que c'est non seulement une façon de se connecter dans ce qu'elle dit et dans ce qu'elle va dessiner et peindre après au patrimoine matériel de l'Algérie, mais aussi au patrimoine immatériel que sont les contes. Dans les contes que Baïa va transmettre à sa mère adoptive, qui, il faut le rappeler, est européenne sans être issue du monde colonial, puisqu'elle vient de Toulon et n'était jamais allée en Algérie avant, elle reprend, en les adaptant à sa manière, En les singularisant donc, elle reprend tout un patrimoine qui existe, populaire, qui existe.
Et même en un matrimoine.
Et ailleurs, voilà. Et on peut même parler de matrimoine parce qu'une grande partie de ces histoires sont transmises par les grands-mères, les mères, etc. aux enfants. Mais elle en fait quelque chose de personnel. On voit bien qu'elle a, que ses références, elle est pétrie de ses références. Et certains de ses contes, par exemple, on peut les retrouver ailleurs dans les ouvrages, Le Grain Magique de Taos Amrouche. On retrouve certains de ses contes, en particulier l'histoire de ces orphelins que j'ai sous les yeux. Alors, ces contes
ça s'appelle les orphelins.
Montrent le monde comme étant un monde cruel, dans lequel il y a des dangers, où on n'est pas toujours en sécurité, et où on peut connaître des détresses très profondes. C'est le cas de ces deux enfants qui ont perdu leur mère. Et quand moi, la première fois, j'ai vu en particulier cette œuvre-là, où les deux orphelins entourent avec ses lignes sinueuses comme ça, et le bras entoure la pierre qui est à la tête et la pierre qui est au pied de la tombe de la mère, j'ai été vraiment bouleversée. Je trouve que c'est vraiment une réussite.
Et un écho à son histoire, presque.
Un écho à son histoire et au, ben, au malheur qui peut surgir et à la manière donc dont ben, ses enfants ici essaient de continuer à communier avec la mer et donc l'idée du fleuve de lait que l'on retrouve d'ailleurs dans d'autres
l'interprétation des œuvres de Baya, c'est souvent qu'elle cherche à redessiner sa mère, c'est ce qu'elle disait dans les rares interviews qu'elle a accordées adultes, c'était qu'elle se souvient de sa mère et qu'elle veut qu'elle recherche sa mère dans ces portraits là sa mère décédée alors qu'elle était extrêmement jeune et effectivement elle a un petit frère hein, Baya, donc ce dessin est assez, moi aussi m'avait fait forte impression. Par ailleurs, c'est un dessin très joyeux et peut-être l'un des plus, enfin, dans les dessins de contes et les dessins d'enfants, ce sont des dessins beaucoup plus lumineux en termes de couleurs, je trouve. Parce qu'on n'a pas le cernage noir, ce qui leur donne quelque chose, je trouve, d'assez joyeux, d'assez lumineux.
Bah écoutez, sur cette question-là, justement, sur cette question précisément des couleurs qui surgissent de la nuit, Mathieu Pot-Bonneville, qui est directeur du département culture et création de Beaubourg, il nous envoie des cartes postales, mais là, cette fois-ci, je pense que c'est à vous, Kaouter Adimi, qui l'envoie. Écoutez.
Vous allez écrire un livre.
Un livre? Mais je ne pourrais pas. J'ai déjà du mal à écrire une carte postale.
Cher Patrick, je vois une prairie carrée, un peu en pente, verte et herbue. Dans ce vert, beaucoup de fleurs jaunes, de toute évidence du pissenlit. En haut de la prairie, une maison paysanne, debout devant la porte, deux femmes bavardes avec animation. La paysanne coiffée d'un foulard et une nourrice. Sur la prairie jouent trois enfants. Je suis l'un d'eux, âgé de 2 ou 3 ans. Les deux autres sont mon cousin, qui a 1 an de plus que moi, et sa sœur, ma cousine, qui a presque mon âge. Nous cueillons des fleurs jaunes et tenons à la main un certain nombre de fleurs déjà cueillies. Cette description fut rédigée en 1899. On la doit à Sigmund Freud, et c'est sur ce fond jaune d'or, qu'il élabore et introduit la notion de souvenir écran. Cette prairie, cette maison, ses enfants, ses fleurs, Freud va les rechercher dans ses propres visions d'enfance. Et s'il le fait, c'est pour soulever une question troublante. Pourquoi, dans la vaste nuit qui recouvre la mémoire de nos premières années, pourquoi certaines scènes surnagent-elles, vivaces, leurs contours aveuglants à force d'être nets, photogrammes sauvés de l'oubli, trop vifs peut-être pour être vrais? En lisant le beau livre de Kaouter Adimi, qui tresse ensemble la peinture et l'anamnèse, se débattent avec la couleur, le traumatisme et les choses trappes de la mémoire, je me disais que dans ce concept de souvenir écran, ce mot écran condense 4 traits décisifs, comme les 4 coins d'une toile. Premièrement, l'écran obture, bouche, voile. On pourrait traduire le mot forgé par Freud par « image couvercle ». Ce qui revient dans la fraîcheur d'une émotion intacte serait donc d'abord là pour ne pas se souvenir. Mais deuxième coin, l'écran montre, témoigne, il manifeste. Et l'intensité de cette scène appelle à être prise au sérieux, non pour l'authenticité de la scénette naïve qui s'y déroule, mais pour y débusquer une concrétion de traces mémorielles polarisées par le désir et les hantises. Une enquête s'engage, une étude en jaune, comme il y a chez Conan Doyle une étude en rouge. Troisième coin, c'est que le souvenir écran est d'abord visuel. Dans le tableau que Freud décrit avec tant de précision, c'est la couleur qui fait trembler l'innocence de l'image. « J'ai l'impression, écrit-il, que quelque chose ne va pas. Le jaune des fleurs se détache beaucoup trop fort sur l'ensemble. » Intensité par où la vision d'un même trait se dénonce comme reconstruite et appelle à discerner dans son irréalité même un surcroît de sens. Après tout, nous sommes en 1899. La sortie des usines Lumière voisine avec les escamotages filmés par Méliès. Dans la peinture, la couleur s'apprête à s'émanciper du motif. Le souvenir écran de Freud se replie comme les coins d'un mouchoir autour de tous ces écrans-là, dans ce moment très particulier où les images deviennent insincères et se font voyantes. Et quatre, dernier coin. Pour que l'image apparaisse sur un écran, il faut, comme on sait, que celui-ci coupe la trajectoire d'un faisceau lumineux. Dans le texte freudien, ce faisceau, c'est le temps lui-même. Tant du souvenir et tant de sa remémoration, tant de la trace et tant de sa reconstruction, tant de l'image infantile et tant d'un autre souvenir parfois plus récent qu'elle dont elle assure l'expression et le refoulement. C'est ce fil du temps qui noue les injonctions contradictoires auxquelles nous soumettent nos images d'enfance. L'impossibilité de nous y fier et l'obligation de les prendre pour guide, l'aveuglement poignant qu'elles imposent et la lucidité qu'elles exigent. Dans le tableau que nous peint Freud, Patrick, le temps brille d'une belle lumière jaune. C'est la couleur de son mensonge et la teinte de sa vérité.
France Culture. Allons y voir. Patrick Boucheron.
C'était pour vous, Kaouda Amy.
Je pense que je vais lui renvoyer une carte aussi. C'est assez troublant en termes d'écho avec les questions qui ont traversé toute la rédaction de mon livre sur cette question de la mémoire et des images qui se détachent, qui sont assez perturbantes. Parce que parfois, d'ailleurs, c'est les couleurs qui viennent, comme ce jaune brillant qui viennent complètement envahir la page, envahir le souvenir. Ce ne sont pas toujours les couleurs qu'on souhaiterait voir.
Parce qu'en vérité, je disais qu'il y avait deux nuits au musée, mais il y en a eu trois. La première, effectivement, c'est au musée Picasso.
La nuit ratée.
C'est la nuit ratée parce que un souvenir écran vient justement faire effraction dans votre projet.
Et obscurcir le projet.
Deuxième, 2022, où vous êtes effectivement préparé à ça. Et puis il y a une troisième nuit où on vous dit, on vous engueule presque, en disant, mais tu as le droit, au fond, de d'écrire sur ces deux choses en même temps. Peinture et sur la nuit. C'est-à-dire sur ce moment traumatisant, ce souvenir, en 1994, et puis le chaos, écrivez-vous, une première fois, dans un carnet. Et vous le reprenez la deuxième fois.
Oui, c'est la grande nuit algérienne. On m'a beaucoup dit, tu es sortie de la nuit, j'en suis pas totalement certaine, mais en tout cas, j'en ai pris le chemin et c'est ce que j'écris à la fin de ce livre. J'ai tenu toute la nuit et ce livre, c'est un hommage à ça, à réussir à tenir et à sortir en partie de la nuit algérienne, de ce que furent les années 90. Mais je crois que moi, j'ai beaucoup tenter tout au long de ce livre de réussir à finalement à combiner deux choses. On m'a beaucoup dit Baïa et ton histoire, et finalement, effectivement, j'étais partie pour raconter Baïa, et finalement, je me retrouvais à raconter l'histoire de ma famille et à faire une quête double, à la fois la quête de qui est Baïa, essayer de comprendre Baïa, et la quête de qu'est-ce qui nous est arrivé en 1994, qu'est-ce qui nous est arrivé sur ce bord de route en août 1994 face à des terroristes. Que s'est-il passé dans la petite voiture blanche. Mais en fait, j'ai surtout essayé de combiner la nuit et la lumière, d'essayer de combiner ce qu'a réussi à faire Baïa. En fait, au fond, moi, ce que j'ai essayé de faire, c'est un tableau de Baïa. C'est-à-dire, à la fois, c'est un cernage de noir, et en même temps, c'est des couleurs éclatantes. Et j'aimerais que cette couleur, et c'était très beau, ce jaune qui éclate, j'aimerais que la couleur éclate beaucoup plus que le noir.
Et puis, il y a un moment où vous cherchez une image de la jeunesse heureuse à Oran, et vous ne la trouvez pas, et vous écrivez finalement, mais je n'ai qu'à abaisser les paupières pour entendre de nouveau le rail qui se déverse des fenêtres à toute heure du jour ou de la nuit, les copains qui hurlent nos prénoms depuis la cour de l'immeuble, mon petit frère qui chante Ya Rai Rai de Cheb Hasni, assassiné en 1994 à l'âge de 26 ans par le GIA.
Bonjour Elvan Zabunian.
Bonjour Patrick Boucheron.
On peut tomber amoureuse d'une couleur, c'est possible ça?
Ah oui, je pense. Même de plusieurs.
C'est d'ailleurs ce qui se passe dans le livre de Kawter Adimi.
Exactement. Le bleu-violet et le rose indien. Mais surtout, c'est Baïa elle-même qui en parle extrêmement bien, puisqu'elle dit dans un entretien en 1993, je la cite, « Le rose indien, le bleu turquoise, ce sont les couleurs de Baïa. Elles sont présentes dans ma peinture depuis le début. Ce sont des couleurs que j'adore. » Et en fait, j'ai choisi cette citation parce que ce sont ces couleurs que j'adore aussi. Puisque le rose indien, le bleu violet, le bleu turquoise sont mes couleurs préférées depuis toujours. Donc, en découvrant les peintures de Baïa, ce terme d'émerveillement qui est revenu plusieurs fois, et en effet, le merveilleux ou le fabuleux sont vraiment les premiers mots qui arrivent quand on regarde son travail.
Et puis d'ailleurs, ce rose indien, il est vraiment indien, finalement.
Oui, exactement. Hein? Puisque en fait, quand j'ai regardé avec attention donc ces peintures et ces dessins, j'ai tout de suite pensé aux miniatures indiennes avec les femmes et les paons. Puisque le paon est un oiseau sacré en Inde, et c'est aussi un motif qui est très prisé dans le monde musulman, et dans les représentations, c'est un motif décoratif. Et la façon dont Baïa transforme donc les plumes dans certaines de ses peintures, les plumes de paon en motif sur les vêtements, qui sont portées par les femmes, qu'elle peint ou qu'elle dessine, produit, il me semble, cette continuité visuelle avec les miniatures indiennes. Seulement, une petite différence, quand j'ai mis ensemble l'un des dessins de Baïa avec cette femme et ce paon, et cette robe très mouvante, je dirais, les miniatures indiennes restent dans un grand silence et dans une grande immobilité, tandis que soudain, la peinture de Baïa ou les dessins de Baïa commencent à se mouvoir et produisent presque du son.
Oui.
Et c'est intéressant parce que c'est de cette manière-là que j'ai vraiment saisi en fait ce qui se jouait aussi dans ces représentations.
Puis on parlait des contes kabyles, mais il y a aussi des fables indiennes.
Exactement, parce qu'en fait cette question du fabuleux, puisque le terme fabuleux vient de fable, en regardant encore donc ces représentations de Baïa, j'ai pensé à ces fables de Pilpay, qui était le philosophe indien qui les a écrites en sanskrit au IIIe siècle et dont il existe 200 versions traduites dans près de 50 langues, dont l'arabe au 8e siècle, mais aussi le perse ou l'hébreu. Et d'ailleurs, la traduction française date de 1644 et Jean de La Fontaine le signale, en fait, dans cette première édition, qu'il s'est inspiré des fables de Pilpay pour ses propres fables. Mmh. Les illustrations de ces fables représentant différents récits qui montrent souvent donc les animaux, là aussi, il se joue quelque chose qui m'intéresse aussi dans la représentation qu'il y a chez Baïa, c'est le profil. Et dans les miniatures indiennes, les femmes ou les personnages représentés sont souvent de profil. Et le profil donne une stature, bien sûr, au corps, mais permet aussi d'orienter le regard vers une autre direction que celle des personnes qui regardent le tableau. Et j'aime beaucoup cette possibilité de créer un contact qui serait presque hors champ quand on regarde ces différentes choses. Et puis, il y a aussi, outre ces fables, donc c'est vraiment des Pilpay avec cette réflexion autour de la question de l'Inde et de pensées vraiment millénaires, j'ai aussi trouvé des liens. Alors ça, c'est plus intéressant, que je ne connaissais pas, le maître artisan Mohamed Boumedi, qui est né à Blida en 1924. Et quand on voit en fait l'une des femmes avec en robe de paon de Baïa, les motifs floraux que réalise ce maître artisan sont très très proches de ce que Baïa reproduit.
Anissa Bouayed, Baïa, c'était aussi d'une certaine manière l'artiste des correspondances. Donc c'est normal effectivement qu'on puisse, avec elle, depuis elle, après elle, poursuivre cette quête de l'imaginaire.
Oui, je pense que c'est sans doute une artiste pionnière et que c'est la première qui a su être, comment dire, connectée sa culture arabe, sa culture berbère, avec la modernité. Mm-hmm. Et je pense que cette capacité à se servir de ces sources d'inspiration et à en faire quelque chose que l'on regarde toujours et que l'on regarde toujours tant de décennies après qu'elle les ait faites. Quand même, on parle d'exposition de 1947 ou de 1960. Donc je pense que cette capacité de puiser dans l'imaginaire d'une société et d'en faire quelque chose de singulier, nous renvoie peut-être à la notion d'intersubjectivité d'une certaine façon, c'est-à-dire sa subjectivité nous permet, nous, de nous émouvoir oui. toujours aujourd'hui.
Et en tout cas, ce qui est certain, Elvan Zabunian, c'est que on n'a peut-être pas si mal travaillé que ça aujourd'hui, parce qu'il y a une catégorie à laquelle on a vraiment fait la peau, c'est art naïf.
Exactement.
Là, on n'en a vraiment pas parlé. On est très, très loin de l'idée qu'on voilà. peut se faire. De...
Exactement, parce qu'en fait, en lisant voilà, certains textes, qui, comme il a été dit au début de l'émission, en fait, tous ces stéréotypes qui collent à la peau à la fois des artistes dans un contexte colonial et la manière dont, en fait, la réception de ces œuvres produit aussi de nouveaux clichés. D'une certaine façon, Baïa les explose complètement. Et ce qui m'intéresse, en fait, d'une certaine façon, je pense qu'en tant qu'historienne de l'art, c'est en regardant ses dessins et ses peintures, c'est de voir comment est-ce qu'il y a une relation qui va presque universelle, même si le terme est particulier, au planétaire,
oui.
qui pourrait, une esthétique particulière qui relie, en fait, ces objets, ces femmes et ces représentations. Et ça, c'est cette possibilité de réunir, c'est quelque chose qui m'a beaucoup intéressée dans le travail de Baïa.
Qu'écoutez oui, Radimi.
Ah, j'écoutais attentivement. Effectivement, moi, j'ajouterais simplement quelque chose. C'est que Baïa, à partir de 47, va écumer les musées parisiens. Elle va passer beaucoup de temps au Louvre, mais pas que. Elle va passer beaucoup de temps aussi auprès de peintres français. Enfin, elle va regarder énormément de films sur les peintres, puisque les MACT en avaient pas mal. Et donc, je ne sais pas dans quelle mesure ça va accompagner. Et nourrir son travail, mais c'est quelqu'un qui est beaucoup plus universel que ce qu'on pourrait imaginer par la lecture qui est faite de Baïa à l'époque.
Et c'est cela que vous appelez un ébranlement qui précède la joie.
Et c'est ce que j'appelle un ébranlement qui précède la joie.
C'était Allons-y voir, merci à vous trois, Kaouter Radimi, Anissa Bouayed et Elvan Zabunian. Les références de vos livres, de vos parutions, de vos romans, de vos catalogues sont à retrouver sur la page de notre émission. Une émission préparée très bien, comme d'habitude, par Anouk Minaudier et à la réalisation Laurence Millet. Merci à vous toutes et tous.